Ce matin, nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, les chapitres 33 à 45. Alors, ce n'est pas un passage biblique en lien direct avec le thème des Journées européennes du patrimoine, qui sont, je crois, art et divertissement, il me semble. Là, ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, il s'agit bien de la question du patrimoine dans ce texte, qui, vous allez le voir, est assez rude à entendre. Il mérite qu'on s'y attarde et qu'on le commente. Écoutez une autre parabole, dit Jésus. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses esclaves chez les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses esclaves. L'un, ils le battirent, l'autre, ils le tuèrent, un autre encore, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils, en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent, « C'est l'héritier, venez, tuons-le. » Et nous aurons son héritage. Ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il donc ses vignerons? Ils lui répondirent, ces misérables, il les fera disparaître misérablement et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront des fruits en leur temps. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle ? Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Après avoir entendu ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 214 sur ton Église universelle et nous chanterons uniquement les premières strophes, les une et deux. vous invite à vous asseoir. Nous prions ensemble. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions aller par tes chemins quand nos propres chemins se perdent. Pour que nous sachions que faire quand notre avenir est incertain. Pour que nous sachions de quoi nous sommes capables quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source de nouveauté. J'assistais hier à un colloque sur les courants réformateurs en islam. Quel rapport avec les évangiles et les vignerons homicides, me direz-vous ? Eh bien, en écoutant les enjeux d'une réforme religieuse aussi passionnante que ceux d'un tel mouvement, une question apparaît centrale. À propos des évangiles comme à propos du Coran ou de tout autre texte fondateur. Celle du patrimoine reçu et de notre fidélité à ce patrimoine. Quel statut ont les écrits des grands monothéismes ? Quelle marge d'interprétation existe-t-il pour le lecteur ? Quelle adaptation contextuelle est-elle possible ? Quelle relecture des traditions, des rites, de l'histoire sont possibles sans risquer d'être infidèles ? À un patrimoine spirituel que l'on reconnaît comme essentiel, mais qui est tellement ancien et qui a traversé tant de vicissitudes rédactionnelles qu'il devient difficile de l'authentifier avec certitude. À quel patrimoine le libéralisme reste-t-il fidèle ? C'est la question qui a surgi en écoutant toutes ces personnes qui étaient en train de réformer leur propre façon d'être musulmans. Car il s'agit bien de la question du libéralisme en religion, quelles que soient les religions. Les méthodes de critique textuelle, les recherches historiques, les lectures étayées par les découvertes des sciences humaines et le doute méthodique nécessaire sur les sources dont nous disposons en religion sont autant d'éléments qui affichent clairement une posture libérale du croyant. Critiquer un texte fondateur est déjà une certaine façon d'entrer en religion. Je dis libéral pour caractériser une attitude de liberté qui promeut la recherche contre le dogme, qui promeut le doute contre l'affirmation d'un savoir absolu. La critique contre l'acceptation des rites vides de sens, l'intelligence contre l'obéissance aveugle à la tradition. Un libéralisme ne se contente pas de croire, il cherche à comprendre ce qu'on lui propose de croire. Mais le problème, c'est que dès qu'on cherche à comprendre, dès qu'on est critique, on trouve. Et on ne trouve pas que des choses cohérentes qui éclaireraient tous les coins sombres de notre ignorance. Très souvent, au contraire, la recherche accroît le sentiment d'ignorance, le doute et le scepticisme, car on mesure l'ampleur de ce qui reste à découvrir. Plus on travaille et plus il faudra travailler. Cette réalité est une force en même temps qu'une faiblesse. Une force parce que la conscience individuelle s'aiguise à mesure que l'on cherche et la liberté s'accroît. Et en même temps une faiblesse parce que ce chemin critique nécessite de travailler sans cesse, de chercher sans cesse, d'être autonome et souvent seul, et bien souvent de subir les attaques des adversaires les plus dogmatiques. Les tenants de tous les fanatismes l'ont bien compris. On gouverne bien plus difficilement celui qui a appris à douter que celui qui n'a rien appris du tout et qui reste malléable à tous les pouvoirs. C'est pour cela que les mouvements de réforme religieuse qui visaient à une plus grande autonomie du croyant ont tous été persécutés et que, très souvent, ils sont restés et restent minoritaires dans beaucoup de lieux et inconnus dans le flux et la masse des courants dogmatiques. Pourtant, c'est bien la grandeur des héritiers d'un patrimoine religieux que de l'honorer par la compréhension et l'intelligence. N'est-il pas écrit « Tu aimeras Dieu de toute ton intelligence » Dans le texte que nous avons lu ce matin, il est question de cette pierre que l'on rejette et qui devient pourtant celle sur laquelle se construit l'avenir. Bien sûr, on peut interpréter le passage de façon classique, emprunté au psaume 118 comme la description de ce qui advint à Jésus, le crucifié qui devient la pierre angulaire d'un nouveau mouvement religieux, lequel se veut fidèle à la loi de Moïse en proposant pourtant un universalisme là où il y avait un peuple élu. Cette pierre angulaire était aussi une pierre d'achoppement. Elle avait de quoi provoquer le scandale. Car enfin, est-il possible d'être fidèle à Moïse quand on ouvre la notion d'élection à tous les païens, à tous ceux qui s'approchent de Dieu et qui ne sont pas nés dans le peuple? Comment ne pas crier au scandale dogmatique? Le Christ, en épinglant les anciens du peuple et les grands prêtres, est-il encore fidèle au patrimoine spirituel dont il dit lui-même qu'il n'en changera pas un iota? Que faire du patrimoine reçu? La facilité, souvent, vise à faire un patrimoine incréé, c'est-à-dire à prendre ce patrimoine et à déclarer qu'il est incréé, révélé, divin, éternel. Ainsi, on sclérose toute évolution de lecture, on muselle tout essai d'interprétation et on décourage quiconque voudrait chercher à comprendre le contenu de ce patrimoine. Mais une telle attitude n'est pas compatible avec la temporalité des hommes. On ne peut pas garder une religion à l'abri des changements d'époque. Ainsi, on ne lit pas le psaume 118 de la même manière deux siècles avant Jésus-Christ que deux siècles après. Le patrimoine, s'il est vivant, ne peut ignorer l'époque où on en hérite. Dans sa parabole des vignerons homicides, Jésus prend l'image de la vigne pour parler de ce patrimoine laissé en gérance aux religieux de son époque. Jésus prononce un enseignement dans le temple. Il est interrompu dans cet enseignement par les anciens et les grands prêtres qui mettent en cause son autorité pour enseigner. Il reprend alors en demandant à ses opposants si, d'après eux, le baptême de Jean était divin ou humain. Ses opposants refusent de répondre pour ne pas risquer de se compromettre. Puis Jésus raconte une première parabole sur deux fils, dont l'un refuse d'abord d'aller travailler dans la vigne de son père, puis se repent et finalement y va, et dont l'autre fils affirme d'abord qu'il ira travailler dans cette vigne et finalement n'y va pas. Jésus tire de cette parabole la conclusion selon laquelle les anciens et les grands prêtres n'ont pas cru le prophète Jean, le Baptiste, et ne se sont pas repentis alors que les collecteurs de taxes et les prostituées ont écouté Jean et se sont repentis. Vous imaginez la tête de ses interlocuteurs. Puis il enchaîne avec la parabole des vignerons homicides. N'oublions pas que dans le texte, Jean est déjà mort décapité au moment où Jésus parle. Il est déjà victime de ce qu'il apportait. Cette parabole nous parle d'un patrimoine, la vigne, qu'un maître de maison laisse en fermage à des vignerons. Le maître s'en va en voyage. C'est là le problème de toute religion révélée. L'auteur du patrimoine se retire et est absent. Il ne peut pas donner son avis sur la façon de traiter le patrimoine qu'il a laissé en gérance à d'autres. Il ne peut donc pas donner les critères d'une action fidèle à son intention. Jérôme, l'auteur de la Vulgate, c'est la traduction latine de la Bible, dit à ce propos cette chose délicieuse. Ce n'est pas que Dieu change de lieu car il est nécessairement présent partout, puisqu'il remplit tout de son immensité. Mais il paraît s'éloigner de sa vigne pour laisser aux vignerons toute liberté dans leur travail. Et voilà bien le problème. Le maître est parti et les vignerons peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans cette parabole, les vignerons useront de leur liberté pour capter le patrimoine et ne rien rendre au maître, ni à ses esclaves, ni à son fils. Bien sûr, il existe dans toutes les époques des prophètes, des hommes et des femmes de Dieu qui, au fil des âges, donnent leur vision des choses et rappellent à ceux qui abusent du patrimoine religieux laissé par Dieu, qui rappellent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce patrimoine. Mais dans la parabole, on voit comment ils sont traités. Ils y sont représentés par les personnages des esclaves qui sont envoyés par le maître. Les vignerons peu scrupuleux vont les rouer de coups ou les tuer. Ce traitement violent des prophètes est pratiquement compris dans leur mission. Jérôme, l'auteur de la Vulgate, toujours le même, écrit à propos des prophètes représentés par les esclaves dans cette parabole. Ils les battirent de verges comme Jérémie, les tuèrent comme Ésaïe, les lapidèrent comme Naboth, et comme Zacharie, qu'ils immolèrent entre le temple et l'autel. Il montre ainsi les risques inhérents au ministère de prophète, et Jésus lui-même pourrait inclure ici le prophète Jean, le Baptiste, dans cette litanie des prophètes morts pour la foi. Le maître finit par envoyer celui qui a autorité sur son patrimoine, le fils, l'héritier. Et comme s'il était naïf sur la cruauté du genre humain, il espère que cette fois les vignerons seront respectueux de ce statut de fils de Dieu. Malheureusement, au lieu d'impressionner les vignerons, l'héritier déclenche chez eux le sentiment d'une aubaine. S'il tue l'héritier, plus personne ne viendra réclamer les fruits du patrimoine. C'est ainsi que le Fils de Dieu est tué. Cette scène révèle l'hypocrisie des vignerons. Ils savent que le maître ne reparaîtra pas. C'est le prophète du Dieu absent. C'est le fils du Dieu absent qui est venu. Et c'est toujours un problème quand le Dieu est absent. Seule la foi peut donner à l'homme la conscience que ses actes ont une portée divine. Celui dont Dieu a quitté le cœur pour toujours ne se pose pas ce problème et peut usurper sa place sans aucun cas de conscience. parfois par orgueil, parfois par amour du pouvoir. En racontant cette parabole, l'Évangile pointe du doigt les voleurs de patrimoine, les usurpateurs de la puissance de Dieu, les hypocrites de la foi, qui captent le patrimoine spirituel que Dieu inspire dans le cœur de l'homme. Ils le captent pour en prendre les fruits à leur compte. Bien sûr, dans cette parabole, les pharisiens sont visés et les grands prêtres aussi. Mais dans toutes les religions, il existe des instances cléricales qui s'interposent entre les fidèles et leur Père dans les cieux. Un clergé qui capte et détourne la révélation divine pour en faire une possession et un moyen de pouvoir sur les autres. Tous les mouvements religieux qui choisissent de réformer ce que les clergés ont sclérosé avant eux commencent par réformer leur façon d'instituer et de régler les communautés de croyants. Avec plus ou moins de réussite et de clairvoyance peut-être, mais ils tentent d'inventer des systèmes de gouvernement différents, car il s'agit bien là d'un problème de pouvoir et de mandat. C'est ainsi que la réforme a imaginé des synodes pour rompre avec le magistère d'un clergé qui ne laissait plus la place au débat. La parabole parle des rapports de force entre les gardiens du patrimoine de la foi, mais elle ne dit pas ce que ce patrimoine contient et comment on peut y être fidèle. Si ce n'est que la parabole parle de travail, d'esclaves et d'héritiers, il semble bien que le patrimoine se travaille et qu'il s'hérite. Le terme pour dire héritage en grec est kleros. C'est aussi le nom qui désigne le sort, la chance. Ainsi, l'héritier ne choisit pas son héritage. Il ne le convoite pas, il ne veut pas le capter, il est celui à qui échoit le don de Dieu. Il y a donc de la passivité dans le fait d'être héritier d'un patrimoine, une absence de prise de pouvoir. Et pourtant, les esclaves de la foi, les prophètes de la parole qui viennent dans la vigne sont très actifs, ils défendent le patrimoine, mais ce n'est pas à eux qu'il échoit. Les prophètes défendent un patrimoine pour celui qui vient après eux et qui est celui qui aura le statut d'enfant de Dieu, pour accomplir la promesse de Dieu, son salut. Alors comment être un héritier fidèle de Dieu? Comment accéder à la dignité d'enfant de Dieu? Peut-être en venant chercher les fruits de la vigne, le salut auquel tout homme a droit. Avec le Christ, l'héritage de Dieu est donné en partage à tous ceux qui croient et qui se laissent saisir par la foi. Ceux qui ont confiance en Dieu et en sa générosité. Ceux qui ont confiance en sa miséricorde, comme les collecteurs d'impôts et les prostituées dont parle Jésus. Ceux qui n'ont aucun besoin de capter l'héritage puisqu'ils aiment Dieu gratuitement et ont absolument confiance dans son don. Dans l'Ancien Testament, il y a deux mots pour dire patrimoine. Nakala, qui est aussi le mot pour dire le palmier dattier, arbre dont la réputation est de pourvoir à tous les besoins des hommes chaque jour. Et le deuxième mot, c'est Ab, la racine de Abba, Père. Le patrimoine, c'est donc Dieu le Père qui pourvoit, ce Père généreux qui ne laisse pas ses héritiers sans rien. C'est cette foi que les vignerons n'ont pas. Ils captent la parole de Dieu, sa promesse, et en font un outil de pouvoir car leur manque de foi les empêche de croire que Dieu leur donnera leur part d'héritage et de salut. Ils ne comprennent pas que le statut d'héritier de la promesse de Dieu est promis à tous, même à eux, dans leur orgueil et dans leur soif de pouvoir. Si seulement ils croyaient en cette mansuétude de Dieu, si seulement ils cherchaient leur salut et non pas leur force. Aujourd'hui encore, le patrimoine que Dieu nous transmet dans la foi est infini, incalculable, sans cesse renouvelé pour quiconque croit. Et la question de ce que nous en faisons se pose pour tous les monothéismes. Le rôle de nos institutions religieuses, c'est de préparer les chemins de ceux qui cherchent Dieu et sa promesse, et de ne surtout pas faire obstacle sur le chemin par nos traditions, nos éventuelles prises de pouvoir ou nos tentations de dogmatisme. Accueillir les héritiers dans la vigne de Dieu, voilà notre ministère. Partager le lot que Dieu nous a donné à travailler et à faire fructifier. Être des vignerons accueillants plutôt que des vignerons homicides, voilà le rôle de toute institution religieuse. Pour cela, il faut que ces institutions travaillent à la compréhension des témoignages anciens, à la mise en pratique de ce que la parole inspire de salutaire pour l'homme, dans les actions de partage, d'humanisme, de dialogue et de générosité. C'est ainsi que le patrimoine de Dieu restera vivant. Car si la Bible parle de l'héritage que Dieu donne aux hommes, elle parle aussi du peuple de Dieu comme patrimoine que Dieu se choisit. Nous sommes le patrimoine de Dieu dans la foi. Avec le Christ, tout homme peut prétendre à faire partie de ce peuple que Dieu se donne comme patrimoine. Avec lui, nous sommes tous héritiers. Mais comme lui, quand nous acceptons cet héritage, nous devons l'enseigner comme il le faisait dans le temple et témoigner de la libération qu'il provoque en nous, pour que les hommes qui cherchent Dieu se sentent autorisés à être libres. Car c'est bien là la quête de notre patrimoine religieux, libérer l'homme. Avec le Christ, nous sommes libres dans la foi, libres de questionner notre foi, de faire bouger les lignes de l'interprétation des textes, de mettre à l'épreuve notre intelligence et les affirmations théologiques du passé. Être héritier de Dieu, être son patrimoine vivant, c'est ne plus avoir peur ni de Dieu ni de notre époque, et ne plus avoir peur d'être un humain chercheur de Dieu dans l'histoire. Mais c'est vivre dans la confiance avec un Dieu qui pourvoit d'âge en âge et qui donne des fruits nouveaux. Comme le Christ était libre lui-même en son temps, nous le sommes aujourd'hui. Les mouvements réformistes de nos monothéismes, comme les appellent les musulmans libéraux, doivent s'entraider dans leur quête d'intelligence et de liberté. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de fruits dans la vigne du Seigneur. Ne la laissons pas à ceux qui la captent et font de la religion une machine de pouvoir. Car, comme le dit le prophète Ésaïe, avec eux la vigne produit des raisins puants de violence. Prenons soin du patrimoine de Dieu. Amen.